Moi, ça va être du genre assez scientifique et peut-être que vous serez sursaturé par un certain nombre de... Merci, a priori, je demande. Sursaturé par ce que je vais dire, mais c'est pas drôle. C'est seulement, et effectivement, ce qui a été fait en extragalactique, dont tout ce qui est en dehors de notre voie galactée, de notre voie lactée, depuis à peu près les années 1980 jusque relativement près de notre jour, puisque Frédéric parlera d'aujourd'hui. Alors, j'ai suivi un peu les équipes telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est les trois grands thèmes dont je vais vous parler avec un certain nombre de résultats dans chaque grand thème. Alors, le premier, c'est effectivement la distribution spatiale des galaxies. Et là, je crois que ça peut vraiment vous informer sur ce problème de grande structure. Ça, c'est un pinceau qui fait même pas un degré carré et qui va du redshift local 0 jusqu'à 0,5. Donc, le redshift mesure la distance. Donc, vous voyez effectivement, ici, c'est l'agrandissement, le redshift 0,1, 0,2, 0,3. Et ce que vous voyez, effectivement, c'est une alternance de vide et de mur. Vous avez, et ça, c'est vraiment la première mise en évidence de cette distribution de la structure cellulaire de la distribution des galaxies. Alors, la chose qui est intéressante ici, c'est un survey qui était plus... Ça a déjà une vingtaine d'années. Ça, c'était encore un survey plus ancien qui était fait à Harvard. Alors, vous voyez, ça, c'est l'inverse. C'est une très grande couverture sur le ciel. Mais on va pas très loin, on voit que les galaxies très brillantes, et on voit vraiment ici, c'est dans la même direction, hein. Là, on voit un mur très important et des filaments. Alors, la deuxième chose qui est importante, ce survey a commencé à révéler qu'il existait peut-être des fluctuations encore à plus grande échelle. Au lieu d'être une échelle de 30 à 50 mégaparsecs, c'est une échelle qui est jusqu'à 200, et cette sous-abondance, c'est pas vraiment un vide, mais cette sous-abondance de galaxies, où il y a quelque chose comme une fluctuation, c'est ça qui fait 200 mégaparsecs. Maintenant, on passe à l'étude des galaxies, et qu'est-ce qu'on peut dire, en fin de compte, quand on étudie les populations stellaires et leur évolution de ces galaxies. Alors, là, il y a deux figures. Alors, une donne une magnitude, et en fin de compte, les magnitudes étant des choses très bizarres, le flux est plus fort ici que là. Et en fonction du décalage spectral, c'est des observations en banca à 2.1 microns et qui sont interprétées avec des modèles d'évolution. Et effectivement, ici, ce qui est les traits ici correspondent à des masses croissantes de 10 puissance 9 à 10 puissance 13 masses solaires. Bon, notre galaxie, c'est environ 10 puissance 11. Et on voit que les plus massives, en fin de compte, sont des galaxies radio qui avoisinent les 10 fois la masse de notre galaxie quasiment en tout Z. Alors, ici, vous avez un spectre, c'est-à-dire vous avez un flux qui va du domaine optique jusqu'au domaine millimétrique. Et on essaye d'étudier les composantes qui sont responsables de ce flux à différentes longueurs d'onde. Alors, on a une population jeune, c'est la bleue, qui est des flambées d'étoiles, simplement 30 millions d'années. On a une population stellaire vieille, qui est celle-là, de 700 millions d'années. Et là, j'ai fait une erreur, c'est pas le rayonnement de la poussière, j'étais trop vite, c'est le rayonnement du noyau actif. Donc on a décomposé ce spectre et nous permet, en fin de compte, l'analyse spectrale de code d'évolution à remonter aux différents ingrédients, enfin, des différentes populations. Et cette galaxie qui se situe vers ici a environ 2 fois la masse de notre galaxie. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on fait des synthèses de populations stellaires? Eh bien, on peut essayer de prédire ce que vont observer des télescopes qui vont coûter très très cher, comme le JWST qui va travailler dans l'infrarouge proche. Alors, ici, c'est donc des simulations de spectres avec des différents taux de formation stellaire et différentes quantités de poussière. Et ici, on va à peu près du décalage spectral de 2, et on termine environ à 8. Alors, ce que ça permettra de faire, c'est de remonter aux premiers épisodes de formation stellaire, par rapport à ici, et l'enrichissement chimique de l'univers. Alors, plus le spectre est plat, plus il y a de poussière. Là, vous voyez qu'il monte, c'est de l'UV. Mais comme c'est à redshift, ici, quasiment 8, ben, ce qu'on voit dans l'optique à la discontinuité de Balmer, ben, on le voit à 3 microns. Alors, ici, c'est le champ profond de Hubble. Alors, j'ai essayé de regarder quels étaient les temps de pause nécessaires pour voir celle à plus grand redshift, ce qui est intéressant. Alors, c'est quand même, bon, c'est approché, hein, parce que j'ai pas forcément eu assez d'informations publiées. Mais ici, déjà, pour observer les plus brillantes à redshift 6, il vous faut environ 10 000 secondes. Et pour observer les super plus brillantes qu'on connaisse à redshift 8, il faudra au moins un jour. Je te continue. Donc, ça va pas être évident. Maintenant, les amas de galaxies, effectivement, il y a beaucoup d'attention qui est donnée aux amas de galaxies en fusion, parce que justement, c'est les plus complexes à expliquer, et ça montre éventuellement comment ils grossissent avec le temps. Alors, celui-là est particulier. Ici, vous avez une échelle qui est 500 kiloparsec. En rouge, vous avez la carte X. En bleu, vous avez les cartes radio, ces deux grands axes. Et dans le fond, vous avez simplement l'image des galaxies. Alors, ici, visiblement, vous avez un des deux amas qui a conservé beaucoup les concentrations de galaxies très massives autour de lui. Et ça, c'est le deuxième centre de galaxies dans cet amas. Alors, une des choses qu'on voit, c'est que si on se place dans tout l'amas, ou ici, on se place même simplement autour des deux galaxies les plus brillantes de l'amas, on a un excès très très fort de galaxies très brillantes. De nouveau, c'est des magnitudes, donc ici c'est plus brillant, ici c'est plus faible. Normalement, dans les galaxies de champ, cette courbe représente ce dont à voix vous attendez. Disons une loi de puissance et qui est cassée par une exponentielle. Donc il est très très clair que soit dans tout l'amas, soit autour des galaxies brillantes, des deux sous-amas, il y a un très grand excès de galaxies très massives. Maintenant, quelque chose qui est intéressant dans le sens où, à bas redshift, on peut étudier l'analogue de ce qui nous fait découvrir à l'heure actuelle les plus grands décalages spectraux, les galaxies qui existent durant l'époque de réionisation de l'univers. Alors, ces analogues, eh bien, c'est des galaxies qui proches, qui émettent, qui ont beaucoup d'étoiles massives. Donc, il y a une très, très forte ionisation du gaz interstellaire. Et puis, il y a diffusion des photons Lyman alpha. Les photons Lyman alpha, ils sont dans l'UV, donc très difficiles à observer, sauf, bien sûr, avec un télescope comme le HST. Et ici, on voit très bien une galaxie qui a un halo. Alors, les images ne le donnent pas vraiment l'extension totale, parce que c'est bleu et noir. Mais effectivement, le halo Lyman alpha, qui est tout ça, est trois fois plus étendu que le disque qui est vu par la tranche. Et suivant les couleurs, c'est à la fois l'émission des étoiles, du flux des étoiles massives et Lyman alpha. Donc ça, c'est vraiment très très important pour comprendre un peu mieux. Et ce Lyman alpha, dans les galaxies très lointaines, à redshift 6, 7 et 8, ben, il est vu dans le visible, donc c'est plus facile. Mais elles sont très très faibles. Donc c'est un équivalent. Alors, non, il y en a encore un. Effectivement, le dernier dans ce thème, c'est effectivement la force de l'outil qui est S-Extracteur, qui est un logiciel d'extraction de source qui est vraiment utilisé de par le monde par énormément d'astronomes et qui travaille en deux séquences. Une première qui est donc, enfin, deux étapes. Une première qui est une segmentation de l'image et ensuite un raffinement par une identification des galaxies individuelles et leurs formes. Maintenant, je passe au deuxième sujet qui est la cosmologie et physique des hautes énergies. Alors, ça n'est pas forcément toujours facile à expliquer, mais ici, c'est quelque chose de simple. Vous avez trois sites où les noyaux se forment au cours du temps. Alors, ben, l'hydrogène et l'hélium, c'est au moment de l'explosion initiale, du Big Bang. Vous avez ensuite ceux qui se forment par spallation, qui sont les noyaux légers, et puis tout le reste jusqu'au fer, du carbone jusqu'au fer, qui se forme dans les étoiles. Alors, en dessous, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être pas facile à expliquer, c'est vous avez la composition chimique d'une étoile de 60 masses solaires, et effectivement, cette composition chimique dépend de l'interaction nucléon-nucléon et de sa variation par rapport à une valeur canonique. Et la variation de l'interaction nucléon-nucléon dépend elle-même de la constante de structure fine. Donc, en étudiant ça, vous pouvez mettre des contraintes sur la variation de la constante de structure fine. Alors, ici, ce que vous voyez, qui est simplement la quantité formée de... Alors, je crois que ça, c'est le magnésium, ça, c'est le carbone... c'est l'oxygène, c'est le carbone. Vous voyez que s'il y a un départ minime de cette variation relative, tout d'un coup, vous n'avez plus que des étoiles d'un seul type. Et on sait que c'est pas vrai. On n'a pas que des étoiles carbonées. Donc, si on était capable d'avoir une étude statistique importante de combien les étoiles massives, il y en a des carbonées ou des oxygénées, on pourrait donner une contrainte sur alpha. Maintenant, la température du fond diffus cosmologique, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très beau. Essayez d'être sûr qu'il est vraiment un fond diffus cosmologique. Et si c'est un fond diffus cosmologique, on sait qu'il refroidit lentement au cours de l'expansion de l'univers, donc la température doit varier en 1 plus Z, une variation adiabatique. Alors, il y a différentes méthodes pour mesurer la température en fonction de Z, dont deux, je vous montrerai la séance suivante, correspondent à des absorptions dans le spectre de quasars d'arrière-plan, et une qui est l'effet Sunyaev-Zeldovy dans les amas. Ce qui est remarquable, ça c'est la variation attendue, la ligne en pointillé. On arrive avec des précisions remarquables, et qui vont encore décroître avec le temps, de reproduire totalement une variation en 1 plus Z, c'est-à-dire essentiellement une évolution adiabatique. Maintenant, pour vous expliquer le problème, puisque je parlais de réabsorption dans les quasars, qu'est-ce que c'est? Vous avez un objet très brillant d'arrière-plan, un quasar. Sa ligne de visée jusqu'à nous traverse une galaxie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça c'est l'Iman alpha en émission du quasar, on voit une raie d'absorption d'hydrogène neutre qui correspond à la galaxie, avec ici des raies métalliques d'absorption et également de molécules, et ici de la molécule H2. Alors, pour la variation des constantes fondamentales, un peu la conclusion qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'elle varie vraiment pas beaucoup. Alors, comment fait-on? On a des raies qui sont mesurées dans le laboratoire, et puis on observe ces mêmes raies décalées par le redshift, c'est le décalage spectral, à un redshift, ici, c'est là, ça correspond à un redshift de 3, c'est décalé en 1 plus Z. Mais le rapport est indépendant de Z si, et seulement si, ce dont il dépend, qui sont des constantes fondamentales, ne varie pas. Donc, on a essayé, c'est très important, c'est une collaboration, à l'intérieur de l'IAP, c'est une collaboration forte entre physiciens et astrophysiciens, de par le monde aussi, les physiciens aimeraient bien savoir si ces constantes fondamentales varient, et pour l'instant, aussi bien la variation de alpha que la variation de mu s'avère nulle, quasiment nulle, par rapport aux erreurs statistiques. Donc, sur une part, sur près d'un millionième, on sait pour l'instant, c'est des travaux qui continuent, qui ont commencé il y a 15 ans, et qui continuent et vont continuer dans le futur. Maintenant, ici, ces galaxies, on peut aussi les observer dans d'autres manières que le domaine optique, le domaine X, etc. On va maintenant vers le millimétrique. Et effectivement, vous avez ici la première détection de CO en émission, c'est des observations en LIRAM, de deux galaxies qui probablement qui sont en interaction et peut-être qui seront en fusion. L'un est un quasar très brillant, donc en optique, on voit que lui, mais en millimétrique, on voit ces deux galaxies qui sont extrêmement brillantes et énormes. Et la chose intéressante, c'est que leur émission CO qui est là, la raie de CO54, les specs sont différents, ils ne piquent pas à la même vitesse, mais les Z sont quand même très proches et sont similaires. Donc on sait maintenant par d'autres études, que c'est vraiment deux galaxies différentes, chacune extrêmement brillante, et qui vont probablement être en fusion dans un futur proche. Maintenant, les sursauts gamma, qu'est-ce que c'est les sursauts gamma? Ben, c'est des explosions absolument super puissantes. Et pourquoi elles sont si importantes? Je passe tout de suite à ce qui est ici. C'est en fin de compte, elles sont tellement super puissantes que c'est peut-être elles qui vont nous permettre le plus facilement d'étudier l'époque de réionisation de l'univers. Alors, et on sait effectivement que ces sursauts sont plus importants dans le passé. C'est-à-dire que le taux de sursaut augmente avec le décalage spectral. Alors ici, il y a un essai, il y a eu un instrument. Alors pour vous dire, les gamma, c'est environ de quelques dizaines de keV jusqu'à 1 MeV. Il y a eu un satellite, Compton GRO satellite, avec un instrument qui a observé pendant un an. Et ici, il y a à la fois les simulations de la fonction luminosité et les simulations de l'énergie du pic. Ces simulations sont faites par des méthodes de Monte Carlo, où on fait des a priori, des hypothèses a priori sur le taux de formation des sursauts, leur lien avec la formation des étoiles, et ensuite, on voit qu'on peut très bien les reproduire avec un certain nombre d'hypothèses, et on peut comparer à ce moment-là avec la modélisation de la physique de l'émission, en particulier avec les modèles de choc. Donc ça va contraindre les modèles de choc interne. Alors, le dernier terme de recherche, univers profond et grande structure. Alors, ici, vous avez, alors donc ça, c'est les équipes de simulateurs et de théoriciens à l'IAP. Il y a le projet Horizon, qui est en fin de compte une étude numérique de la formation des galaxies et des grandes structures dans l'univers. Et c'est un projet national avec beaucoup d'instituts. Et il y a eu deux étapes. Une première où il n'y a eu que de la matière noire. Et une deuxième étape, qui est celle qui est montrée ici, où il y avait matière noire et baryon. Et où, en fin de compte, est introduit la formation des étoiles, ce qu'on appelle le feedback, ou traduit par les effets de retour, c'est-à-dire, comme on en avait parlé précédemment, comment l'explosion de supernova, en fin de compte, expulse le gaz de la galaxie, etc. Et là, il y a un raffinement adaptatif de Grive. Alors ici, vous voyez que la matière noire est en rouge, c'est pas tellement... le rouge, on voit pas trop, etc. En jaune, c'est... En vert, c'est la densité du gaz, et en bleu, c'est ici, visiblement, dans ces filaments, dans ces feuillets, le gaz est plus chaud. Maintenant, étude. Alors, ici, les transparents étaient un peu complexes à expliquer, donc j'ai simplement mentionné étude de la distribution, effectivement, de la matière aux échelles cosmiques, en fonction de l'échelle d'échantillonnage. Ça, c'est très important, en fonction de l'échelle de mesure. Alors, c'est des mesures pionnières dans les catalogues de galaxies, de la manière dont les galaxies s'agglutinent, et puis aussi mise en évidence de structures, de lois d'échelle. Alors, il y a des prédictions théoriques, à la fois de la dynamique et des incertitudes de la mesure. Et puis, il y a ensuite mesure et validation. On s'occupe des simulations numériques. Il y a deux volets. Alors, ça a été très important en tant que développement d'une quantité énorme de programmes et d'algorithmes théoriques. Et qui, méthode qui a été effectivement reprise un peu après, par d'autres groupes que ceux qui sont à l'IAP. Et il y a deux développements à citer, qui est la théorie perturbative lagrangienne de la dynamique gravitationnelle, et aussi le fait d'avoir des algorithmes de mesure qui soient absolument optimaux. Alors ici, géométrie de grande structure et la constitution du squelette. Ça, vous avez la même image qui est du Sloan Digital Sky Survey, Donc c'est une image réelle de galaxie. Et puis, le squelette, c'est un outil qui va permettre de tracer les crêtes des distributions de formation, les crêtes de densité de galaxies. Et alors, vous voyez ici, c'est ce que vous voyez en rouge. Alors, ici, vous ne tracez que les très grandes échelles, dans celui de gauche. Ici, vous allez à des échelles plus faibles, c'est-à-dire des densités des crêtes qui sont moins grandes, pour aboutir ici à des densités où vous allez pouvoir vraiment reproduire la structure à vraiment petite échelle. Donc, il y a deux choses. Ça peut donner ensuite dans l'analyse des contraintes sur la matière noire et l'accélération associée à l'énergie noire, mais ça vous donne aussi une information sur les positions des galaxies, des amas de galaxies, des groupes et des amas de galaxies, ainsi que du milieu intergalactique. Donc ça permet d'avoir des idées, des contraintes, ou une étude de la dynamique de la formation des galaxies et en fonction aussi de leur environnement. J'ai presque terminé. Maintenant, le weak lensing, la distorsion gravitationnelle par les grandes structures. Alors, effectivement, c'est des allongements, des champs de galaxies allongés de façon cohérente, mais à l'œil nu, vous voyez absolument rien. C'est absolument nécessaire de faire une étude statistique globale. À ce moment-là, vous mettez en évidence sur un très grand nombre d'objets un très léger arrangement, et en fin de compte, c'est essentiel, c'est une des méthodes extrêmement puissantes pour déterminer la masse totale à l'intérieur d'une structure donnée, une galaxie, un groupe de galaxies ou même un amas, et c'est une manière de voir que bon, il y a énormément de matière qui n'est effectivement pas visible. Alors mon dernier transparent, j'ai voulu montrer quelque chose de très joli sur lequel il a été très très peu publié de choses, ce particulier amas. Quand vous avez une galaxie derrière un amas très 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 dense, ben cette galaxie est distordue et peut produire un arc. Donc ça c'est la même galaxie ici avec une autre image, une contre-image de cet arc. Et ça vous permet de déterminer la masse à l'intérieur, dans la surface qui est à l'intérieur de cet arc. Et de mesurer en fin de compte, cette masse. Et malheureusement, il n'y a quasiment aucun travaux publié sur cet arc. C'est dommage, mais il n'y a aucune publicité qui a été faite dessus. Merci.